Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis avec Abdel et Hichem, une jeune femme au visage légèrement scarifié de chaque côté des yeux. Jolie phrase, non ? Hein ? Une jeune femme au visage légèrement scarifié de chaque côté des yeux. Cette jeune femme, elle est dans cette émission, dans cette heure, et on va la découvrir ensemble. C'est une urgence, elle nous a semblé être une urgence, car comme de nombreux lecteurs, nous avons découvert cette semaine la couverture du magazine de l'hebdomadaire Le Point. Le Point qui veut venir un petit peu en aide au président de la République et à son équipe, Monsieur Besson, Monsieur Hortefeux, et qui titre « Immigration, Rome, allocation, mensonge, ce qu'on n'ose pas dire ». Et Le Point ose dire la vérité sur tous ces sujets délicats. Et notamment avec un papier qui s'intitule « Une femme, trois maris ». Une femme, trois maris, vous avez compris qu'il s'agit d'un fléau terrible, la polygamie. Une femme, trois maris. Alors, on va lire un témoignage terrible d'une femme qui s'appelle Bintou et qui effectivement est une victime de cette polygamie, et on en frissonne, on est indigné en feuilletant le journal du milliardaire François Pinault. Et exceptionnellement cette semaine, on n'a pas sauté comme on le fait chaque semaine sur la page indispensable, c'est-à-dire le bloc-notes de BHL. Non, on s'est arrêté sur cette page, et on va tout savoir sur, encore une fois, ce terrible fléau dont on n'ose pas parler. Vous le savez bien, on n'ose pas parler de cela. Il s'agit évidemment, vous avez compris, une fois encore, de stigmatiser les quartiers sensibles, comme on dit, puisque j'ai oublié de vous préciser, bien sûr, que Bintou, cette victime, habite où ça ? À Clichy-sous-Bois, bien évidemment, à côté de Montfermeil, dans le quartier des Bosquets. Ça dit quelque chose, quand même, ce Clichy-sous-Bois, les Bosquets, il y a 5 ans, souvenez-vous, le 27 octobre, la mort de ces deux jeunes dans ce transformateur électrique, suivi des fameuses émeutes dans les semaines qui viennent. Il va en être question, bien sûr, à nouveau. Et c'est là que nous allons aujourd'hui. C'est là que s'est passé ce que vous allez entendre, qui a été découvert, il faut le dire, par le site Arrêt sur Image, qui présente une vidéo tout à fait édifiante et qui, pour une fois, renverse complètement le rapport de force entre les médias et ceux dont parlent les médias. Vous connaissez cette phrase fameuse, l'actualité, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Pour une fois, ceux qui la vivent, eh bien, prennent leur revanche. C'est dans Là-bas si j'y suis, c'est jusqu'à 16h. Une femme, trois maris.
C'est showtime, chaque jour font plat une claque. Ouais. Ils ont rien d'important sous la dent, une goutte de sang, ils en font une flaque. Comment vont-ils pour une bonne traque, faut de l'accroche. Un bon scoop afin que l'auditeur s'approche. Ouais, le fond, s'en faut au fond, faut vendre l'info. C'est clair qu'faut faire mouiller le lecteur plus vite qu'une info devant le cigare de Bill. Le pire, c'est qu'on répète ce que répète le mec à William, que peut-être qu'il lui a mis au fond enfin. Bon, passons, parce que de toute façon, maintenant l'info, ils te la font tous façon fashion. Ouais, façon carry time, façon action. Ça parle de gang, bien de trafic. Dès qu'entre 4 jeunes, y'a une embrouille, t'as craché le vice, fils. Ouais, pour que leur bise glisse, pour que leur papy se vende, on nous diabolise tous. Entretenant les phobies et allant jusqu'à foutre des fausses barbes à des mecs de Tessie, je trouve ça navrant. Ouais, quand les médias se font le relais du pouvoir, alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, je doute de tout. Pour pas qu'on foute le feu, ils foutent le flou, craignant de réveiller une foule de fous. Voilà. Quand les médias se font le relais du pouvoir. Alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, tout.
m'a dit bouffer.
Je t'attends.
Va mourir.
Ouais gros.
Ouais, t'as dit t'as vu le journal ce matin. Tu la foutes bien.
Ah même pas.
Ah c'est des mensonges à la bas dedans.
Ah, on s'en bat pas. Je crois pas en ce torchon de merde.
Dans la suite des papiers du Point de cette semaine, il y en a un qui est assez surprenant et qui s'intitule « Une femme ?»«
Un mari, trois épouses. » »«
Un mari, trois épouses. » »« Un mari, trois épouses. » On a compris qu'il s'agit de polygamie. Et c'est une rencontre à Montfermeil, c'est-à-dire dans la banlieue parisienne, dans le 9-3, avec des familles polygames. On dit bien une rencontre. Un papier signé de trois journalistes prestigieux du Point, Jean-Michel Descugis, Christophe Labbé et Olivia Récassens. Alors, on rentre dans ce papier qui se situe cité des Bosquets, à Montfermeil, bâtiment 5, dans le F4, au troisième étage, s'entassent une douzaine d'enfants et deux femmes qui partagent le même mari, un Malien d'une soixantaine d'années, à l'étage au-dessous. Enfin, on est avec les journalistes qui pénètrent dans ce bâtiment. Et puis, on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Bintou et qui, nous dit-on, a... Alors, je vais vous décrire exactement cette jeune femme. Une jeune femme au joli visage, légèrement scarifié de chaque côté des yeux. Voilà. Et on avance un petit peu dans le papier. C'est saisissant, c'est édifiant. On comprend tout le mal qu'il faut penser de la polygamie, de la situation de cette femme qui est une victime avec ses 8 enfants. Sauf que tout ça est un bidonnage éhonté. Bintou n'existe pas, ou plutôt elle existe bel et bien. Elle est avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Abdel. Abdel, c'est un prénom de garçon. Hein, Abdel, c'est ça?
Oui, tout à fait. Enfin, voilà. Je crois, si je me suis trompé.
Voilà. Les journalistes du Point ont été victimes, c'est eux qui le disent, victimes d'une imposture. D'un coup monté dont vous êtes l'auteur, cher Abdel. Ce qui s'est passé, c'est que le journaliste essentiellement, Jean-Michel Descugis, n'est pas allé du tout à Montfermeil. Il s'est contenté de téléphoner à un certain Abdel. Il savait pas du tout. Il a appelé Abdel.
Il a appelé Abdel qui lui a dit que j'arrive au quartier, donc je monte et dès que je trouve Bintou, je vous la passe.
Voilà.
Et 5 minutes après, je lui dis, comme je vais vous dire tout de suite, je lui dis, bonjour monsieur, donc je suis avec elle, je vous la passe tout de suite. Et ensuite, c'est, alors, oui, Bansou, c'est Bintou là, c'est qui? Et ça a continué pendant 30 minutes.
Ça a continué pendant 30 minutes, sauf que vous avez fait une chose bien particulière, c'est que vous vous êtes filmé. Vous maîtrisez complètement cet outil qui est Internet, et vous êtes filmé. Et à la suite de ça, toute cette histoire est parue dans Arrêt sur Image vendredi.
Ce qui a été le plus dur dans cette histoire-là, c'est, après avoir filmé, ça a été de garder cette information pour moi seul. Parce que j'avais pas envie qu'il soit mis au courant ou que quelqu'un lâche le mot avant la date de la sortie du magazine. Mmh. Donc il a fallu tenir presque une semaine avec la vidéo, presque une semaine avec la vérité. Ah. Donc j'ai tenu vendredi soir, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au jour précis où le journal est sorti. Donc je me réveille le matin et je vais sur Internet, sur le site du Point, pour regarder le sommaire. Donc je vois un titre magique, « Un mari, trois épouses ». Donc je m'empresse d'aller à la librairie pour acheter le magazine. Surexcité, dans la voiture, je commence à le lire. Je rentre même pas chez moi, je le lis dans la voiture. Et là, scandalisé, je rentre à la maison, je vérifie tout ce qui a été dit. J'ai mon magazine à moi à la maison où les parties qui ont été ajoutées ont été surlignées, les descriptions surlignées, ses avis personnels donnés sur le sujet soulignés. Un gros bidonnage.
Un gros bidonnage. Alors on va essayer de raconter plus en détail ce bidonnage. Abdel, vous avez quel âge ?
J'ai 23 ans.
23 ans. Et vous habitez à Clichy-sous-Bois ?
J'habite à Clichy-sous-Bois et je suis originaire de Montfermeil.
D'accord. Votre boulot, c'est quoi ? Vous êtes fixeur ?
C'est pas un boulot, c'est juste... au début, c'était des petits services qu'on rendait à droite et à gauche. Et moyennant une certaine rémunération par la personne qui avait besoin du service. Et c'est devenu une habitude parce que mon numéro a circulé chez tous les journalistes. Mon numéro a circulé même à l'étranger. Donc j'étais une référence.
Fixeur, tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est celui qui va aider les journalistes à rencontrer les gens que les journalistes ont envie de rencontrer.
Tout à fait.
C'est ça. Et les emmener sur des sujets, entre guillemets. Quelle demande on vous a faite? Depuis quand ça dure cette histoire?
Ça dure depuis septembre 2006,
d'accord,
presque un an après la mort des deux jeunes à Clichy-sous-Bois, parce qu'il y avait une préparation médiatique qui devait arriver pour voir ce qui s'était passé un an après.
Ah, d'accord.
Donc les médias ont commencé à filer de partout, et comme ils avaient une mauvaise image parce qu'ils avaient transcrit des histoires erronées sur tout ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois et tout, en stigmatisant une certaine population, donc ils étaient très mal vus. Donc pour ne pas se casser les dents, ils sont passés par des intermédiaires. Une personne du quartier, une personne qui connaît bien l'endroit, une personne qui a bien parlé. Et donc, ils vont à lui et cette personne-là les aide à faire passer la vérité. Grosso modo, qui sera filtré bien sûr par la suite.
Comment travaillent ces journalistes de façon générale, selon vous ?
Cette personne-là appelle, ou sinon c'est un intermédiaire qui appelle, qui propose le sujet, qui propose la somme. Et ensuite,
la somme pour qui ? Pour le fixeur ?
Pour le fixeur. Et ensuite...
Éventuellement pour le témoin ?
Des fois, il y a eu des témoins, mais pas trop. C'est plus le fixeur qui prend, parce que le témoin, en général, il a envie de raconter sa souffrance, soi-disant. Je ne dis pas que tous les journalistes font ça. Je ne dis pas que tous les journalistes qui m'ont appelé m'ont fait ça. J'ai des journalistes qui sont amis avec moi. On se voit souvent, aussi bien sur un article qu'ils doivent faire ou même en dehors. Et on a suivi des personnes qui viennent au quartier quand il se passe des choses pas bien, mais quand il se passe aussi des choses bien, qui en parlent. Et voilà, je ne dis pas que je suis en train de dénigrer la profession, de mettre tous les journalistes dans le même sac, de généraliser, de créer un nouveau cliché sur les journalistes, comme ils le font si bien sur les gens, sur la population. Donc je ne suis pas en train de dire ça, simplement je dis qu'il y en a qui ne le font pas.
Est-ce qu'il y a des méthodes différentes ? Vous dites que vous avez travaillé avec des journalistes étrangers, est-ce que les journalistes étrangers travaillent différemment de nous ?
Les journalistes étrangers, non, les journalistes étrangers sont plus sympathiques. Bon, j'ai eu beaucoup plus de photographes ou de caméramans, mais pas trop de presse écrite étrangère. Donc eux, c'était plus de l'image, du visuel qu'ils voulaient. Donc, mais c'est à peu près le même procédé. Ils arrivent, ils ont leur matériel, ils ont leurs demandes. Donc on leur fournit ce qu'ils veulent. Et à la fin, ils s'en vont, ils laissent une petite enveloppe et ils partent.
Alors, est-ce que du côté des interviewés et des témoins, ça s'est toujours bien passé entre eux et vous ?
Entre eux et moi ?
Oui, c'est ça, entre les habitants, entre les gens et vous, ça s'est toujours bien passé. Il n'y en a pas un de temps en temps qui vous a dit « Dis donc, Abdel, tu es en train de nous vendre nous. ».
Non, il y en a qui ont refusé en me disant « Non, j'ai pas envie de parler, tu sais très bien qu'ils sont en train de dire n'importe quoi sur nous et compagnie. Même si je dis quelque chose, ils vont changer mes propos. » Il y en a qui sont contents de ce qui a été dit et compagnie. Donc après, c'est, comme je dis, un juste milieu.
Là, vous faites allusion à octobre 2005, 27 octobre 2005. Les deux jeunes de Clichy-sous-Bois, Bouna Traoré et Zied Bena, meurent dans le transformateur électrique à Clichy-sous-Bois.
Voilà, il y en a un troisième, c'est Mutine, qui lui, grièvement blessé.
Et là, c'est le cinquième anniversaire. Là,
c'est... Pas anniversaire, c'est plutôt joyeux. C'est la commémoration, je dirais.
Commémoration. Quel regard vous portez sur cette époque, sur ces événements ?
J'ai eu une info qui a commencé à circuler à partir du mois de juin, où on m'a dit « Abdel, t'auras beaucoup de demandes parce que les médias vont vouloir organiser les 5 ans. Donc voir ce qui s'est passé entre 5 ans et compagnie. Et on va voir ce que ça va donner. »
Oui, mais quelle est votre analyse sur ce qu'on a appelé les émeutes de banlieue ?
C'est l'utilisation des mots qui est fascinant dans ces histoires-là. C'est que c'est une classe sociale qui s'est soulevée. C'est toute une population. On peut parler des jeunes de banlieue comme on peut parler de plein d'autres choses. Il y a eu, dans cette période-là, on a eu les pompiers, on a eu les paysans, on a eu les étudiants, on a eu plein de choses. Mais pourquoi on a stigmatisé cette banlieue-là en disant les émeutiers ? Monsieur le Président Nicolas Sarkozy qui dit on va la nettoyer au Karcher, c'est de la racaille. Et ainsi de suite, il y a plein de mots comme ça qui alimentent, qui est plutôt alimenté par les médias en montrant ce que soit le politique démontre, pseudo-démontre avec ses formules, ou sinon ce qui va vendre la peur.
Pour vous, c'était une révolte sociale ?
C'était une révolte sociale, c'est une classe sociale qui s'est soulevée à cause de la discrimination, à cause d'un non-accès au logement, d'un non-accès à une réussite, d'un non-accès à l'emploi, et les personnes se sont révoltées. Il y a quelques reportages où des jeunes disent « oui, je me révolte, c'est la seule façon pour moi de faire ça ». On les a désintéressés. La personne... on peut agir politiquement en s'inscrivant sur les listes électorales, mais ces personnes-là, c'est un truc tout bête sur le système français. On arrive à 18 ans à l'âge de voter. Donc la personne d'un quartier arrive à 18 ans, prend sa carte électorale, mais sur les 18 années, il ne connaît rien au parti politique. Il n'a eu aucun enseignement politique. Donc on lui parle de gauche, de droite. La droite, c'est les racistes. La gauche, c'est les gens qui vont aider le social. Le centre, ça ne sert à rien. C'est l'image qui est véhiculée. Donc la personne arrive à sa majorité, prend la carte électorale et vote pour une personne et non pour un parti, et non pour un programme. Il n'y connaît rien. Les cours d'éducation civique ne sont pas soutenus chez nous.
Dispositif policier renforcé ce soir à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
TF1, 28 octobre 2005.
Pour éviter une troisième nuit de guérilla urbaine.
À chacun ses armes. D'un côté, Une variété de projectiles. Bouteilles, barres de fer, blocs de pierre. De l'autre, la riposte des CRS. 150 tirs de flashball, une cinquantaine de grenades lacrymogènes. Environ 300 jeunes de la cité face à 400 policiers. La ligne de front, la voilà, la principale rue du quartier.
Pour en revenir à la façon dont les médias ont travaillé en 2005, vous dites dans les témoignages là autour de cette affaire, de cette imposture, de ce bidonnage, qu'à l'époque, en novembre 2005, vous avez vu de vos yeux vus des journalistes payer des gamins en leur demandant de caillasser des bagnoles.
Tout à fait, payer des petits jeunes, j'avais entre 12 et 15 ans, je dirais, grosso modo, payer des petits jeunes pour caillasser, pour dégrader une voiture, pour pouvoir avoir l'image tant désirée. Tant désiré qui a été véhiculé par la racaille et compagnie. On sait que ça a fait le tour du monde, cette histoire-là. Donc les médias sont venus en courant en banlieue et il leur fallait quelque chose pour montrer, quelque chose en direct. Donc la meilleure chose d'avoir du direct, c'est de le créer.
Média, 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 dans la presse, rime avec stress. Média, 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 quand la pub te presse ou t'oppresse. Avec scellé, média, média, média. Quand les médias sont zélés, que le pacte est scellé. Entre deux encarts, philosophie de comptoir, histoire de serial killer et portrait de star. Dernière paire de shoes, une barre et ça repart. J'en ai bouffé 10 et je finis gros là. Foule sentimentale, hold up mental. Y'a plus d'étoiles dans le ciel, des crèves la dalle. Lâchez-vous, mais souriez, vous êtes filmés. Apaisez-vous, vous êtes libre entre guillemets. Une crème qui rajeunit les femmes de 50 ans. Et le yaourt qui leur donne le corps de 20 ans. Matraquage de messages et de slogans. Je zappe et je mate les présentateurs arrogants. C'est mon choix, ça se discute, combien ça coûte. Je suis dans le camp des fortes têtes, sans aucun doute. Trop spectaculaire, de talk show sous-évolué. Appelé Super Nani, mon cerveau est pollué.
Média, média, média.
Dans la presse, rime avec stress.
Média, média, média.
Quand la pub te presse ou t'oppresse.
Média, média, média.
Quand la télé rime avec scellé.
Média, média, média.
Quand les médias sont scellés, que le pacte est scellé.
On va revenir sur l'histoire là qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec, comment on va dire, Hichem ou Axiom?
Les deux, je suis connu sous les deux noms.
D'accord, ouais. Donc c'est un copain, voilà, jamais seul, Abdel, j'ai amené mon copain. Quel est votre regard, vous, Hichem, Axiom, sur ce dont on parle là, sur cette époque?
Écoutez, en fait, moi, mon regard, l'impression que j'ai déjà, c'est que nous sommes dans un cas de figure que l'on a déjà vécu auparavant. En fait, c'est pas un cas exceptionnel, ce qui est en train de se passer. Mmh. Simplement, la force, là, aujourd'hui, d'Abdel, c'est d'avoir pu démontrer par le concret, et avec beaucoup d'humour, d'ailleurs, cette situation, une situation que souvent on a dénoncée auparavant, c'est-à-dire une déformation des propos que l'on tient. Moi, par exemple, en premier, en tant qu'artiste, quand on m'interviewe, souvent mes propos sont à l'écrit, sont déformés, extrapolés. Et là, je pense dans un cas un peu plus grave, parce que le décor actuel est, de mon point de vue, très nauséabond, très extrémiste, très raciste. Mmh. Et c'est assez choquant. Quand j'ai reçu la vidéo, pour parler simplement, ça m'a fait assez rire de voir Abdel, finalement, dans une situation où vraiment il mettait en boîte un journaliste. Donc ça s'arrête là. Mmh. Puis dans un second temps, évidemment, on fait le lien avec la manière dont se passe le journalisme aujourd'hui. Ensuite, à notre tour, on extrapole. C'est-à-dire qu'on se dit, si c'est comme ça pour nous, dans nos vies, donc gens originaires du Maghreb, africains noirs, musulmans, enfin, en gros, la population qu'on trouve un peu dans les quartiers aujourd'hui, on a l'habitude d'être stigmatisé, on mesure d'un coup les répercussions à échelle internationale. Parce que finalement, en France, là, on parle évidemment d'un cas où ça se situe dans le 9-3. Mais moi, j'ai déjà entendu parler de gens, par exemple, avec les groupes qui sont partis en Palestine, de gens qui se plaignaient de propos déformés, de situations déformées. Mmh. Donc, Il y a une interrogation réellement sur ce qu'est le journalisme aujourd'hui, à quoi servent les médias aujourd'hui, c'est pas pour vraiment servir la vérité, à quoi ça sert. Mmh. Et puis nous, ça nous a blessé encore davantage parce que après 2005 justement, il y a une plaie qui est restée ouverte.
Sauf que là, avec Abdel, le journaliste est pris la main dans le sac. Quoi. Il y a la preuve irréfutable, il a eu la bonne idée de se filmer. Il serait pas filmé, ouais. Ça aurait été douteux, on aurait dit c'est pas lui. Alors racontons l'histoire maintenant. Donc Abdel, vous êtes contacté par qui pour ce témoignage ?
Je suis contacté par un intermédiaire. Pas besoin de citer le nom. Ça ne se fait pas. Mmh. En général, on est contacté, on fait ce qu'il y a à faire. Je suis contacté par un intermédiaire qui me propose un article qui sera rémunéré à une certaine somme.
Ah, pour vous ?
Pour
vous
moi.
Vous serez
voilà.
Rémunéré, d'accord.
Donc, pour le travail que je fais, on me propose une certaine somme qui sera payée le lendemain de l'interview ou après l'interview. Donc moi, je...
C'est-à-dire qu'on vous appelle, on dit, dis donc Abdel, il y a un gars de tel journal qui cherche telle interview et ce sera payé tant. Voilà,
voilà, on m'a appelé, cash. On m'a dit Abdel, c'est urgent, on a besoin de ça, ça, ça pour un article qui doit être fini avant samedi, c'est mercredi ça, qui doit être fini avant samedi, il nous faut une femme polygame qui a des enfants, qui patati patata, grosso modo.
On vous donne tout un tas de détails.
Voilà, globalement on me dit la personne elle doit être comme ça, comme ci, comme ça, on me donne un peu tout. De préférence, excusez-moi, on m'a dit de préférence noire. Parce que moi je voulais organiser, donc j'ai dit à la personne je vais faire mes recherches. Entre temps j'ai appelé à droite à gauche pour essayer d'organiser un truc gros. Comme je disais, je voulais préparer d'abord à mon tour créer l'information. Donc préparer une actrice, préparer les lieux, ensuite contacter une chaîne
de télé. Une
actrice,
c'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez.
Voilà, quelqu'un que je connais, qui est prêt à jouer le rôle, voilà. Et appeler les journalistes. Qui sera filmé en direct. Avec les journalistes, on serait caché. On aurait filmé en direct le bidonnage.
Pourquoi tout d'un coup, vous voulez faire un bidonnage après toutes ces années
Parce que j'ai l'occasion. J'ai essayé d'en faire par le passé.
Ça fait longtemps que vous cherchez le...
voilà,
vous attendez l'occasion.
J'ai essayé d'en faire par le passé, ouais. Mais j'y suis pas arrivé. Donc là, bon, on en parle maintenant parce que c'est arrivé. Donc maintenant, on me donne l'occasion de m'exprimer. On peut pas avoir les médias, on peut pas avoir la parole à l'échelle nationale. Si on le mérite pas, en gros, je dis pas que je mérite par rapport à ça, mais bon, ça a fait parler de moi parce que j'avais fait ça à un journaliste.
D'accord. Donc vous préparez le coup, vous dites je vais trouver, j'ai une copine qui va très, enfin je connais quelqu'un qui va très bien faire la comédienne.
Voilà. Donc moi j'ai appelé.
Vais faire venir le journaliste et je vais filmer le tout. Je vais filmer le bidonnage.
Voilà, donc une présentation au journaliste en disant voilà, on a un journaliste qui ne vérifie aucune source, donc on lui a pondu une histoire, et voilà, on l'a en direct devant la chaîne de télé qui pourra certifier le geste. Donc j'appelle ma copine me dit qu'elle ne sera pas libre avant lundi.
La comédienne, entre
guillemets. La comédienne, voilà. Donc je ne rappelle pas l'intermédiaire, j'attends qu'elle me rappelle elle-même. Parce que toujours quand on est en demande, c'est toujours la personne qui vient à vous. Donc j'attends qu'elle me rappelle, et je lui dis, voilà, j'ai eu la personne, elle n'est pas là. Elle est avec sa famille, elle ne sera présente que lundi. Et là, elle me dit d'accord, j'en parle aux journalistes. Donc, jeudi, aucune nouvelle. Vendredi, début d'après-midi, on m'appelle, on me dit ah non, il faut obligatoirement avant ça, patati patata. Est-ce que tu peux avoir quelqu'un rapidement comme ça, même au téléphone, c'est pas grave. Même au téléphone, c'est pas grave. Donc, parce qu'il devait être clôturé avant samedi midi. Et la suite, vous l'avez là.
Oui, allô? Ah, vous avez appelé plusieurs reprises, mais ça passait pas, je sais pas, il y avait quoi. D'accord. Attendez, je vous la passe tout de suite. Tiens, Bintou, c'est pour ça.
Ah, allô, oui, bonjour.
La suite, vous l'avez là, c'est-à-dire que la suite, c'est le journaliste qui vous appelle.
Voilà, l'intermédiaire avait donné mon numéro au journaliste, donc le journaliste m'appelle.
Et vous lui passez Bintou.
Je lui dis, il m'a appelé deux fois. La première fois qu'il m'appelle, je lui dis, voilà, je vais arriver au quartier. Et dès que je suis avec elle, je vous la passe. Et quand j'arrive au quartier, donc je rentre, ça j'étais dans la voiture, donc je suis rentré en courant chez moi. J'ai pris l'ordinateur, c'était la seule caméra que j'avais à la maison. J'ai pris l'ordinateur, j'ai allumé, j'ai lancé la caméra à enregistrer et la vidéo.
Allô, oui, bonjour.
Bon, c'est dans ses lentilles d'accepter de me parler, hein. Simplement, j'avais besoin de savoir votre âge.
D'accord, c'est 32 ans. 32. C'est 32 ans.
32 ans. D'accord. Et vous avez combien d'enfants ?
C'est 8.
8 enfants.
C'est ça. Voilà, c'est le problème, c'est parce que moi, c'est marié, on était 3. Voilà, c'est ça. Il y avait la tête de dame, et moi, je suis la troisième. C'est la première, là, c'est problème beaucoup, là, parce que là, au pays, là, moi, je suis originaire, c'est Sonique. Et la première, là, c'est Bambara. Et c'est les familles, là, c'est pas bon, là. C'est parce que là, nous et eux là-bas là, c'est pas entendre beaucoup. Et c'est moi venir là, ici là, et c'est trouver cette dame là, c'est pas bon.
Alors, il y a deux versions qui sont proposées par Arrêt sur Image. Il y a une version courte, une version longue, la version intégrale qui fait 30 minutes. Quand on regarde la version de 30 minutes, c'est ce qu'il faut faire, hein, si vous voulez vraiment comprendre le truc.
Excusez-moi de vous couper, ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est partir vite acheter le point.
Bouf.
Parce que sinon, quand je dis ça, c'est que sur Internet, il a été retiré. Donc il faut aller vite l'acheter.
Ah oui.
Il faut aller vite l'acheter, se mettre à la maison, prendre le point, la version de cette semaine-là, avec comme titre ce qu'on n'ose pas dire, prendre la vidéo, écouter et voir ce qui a été retranscrit.
Voilà.
Écouter, voir ce qui est transcrit. Vous verrez après, parce qu'on peut parler de manipulation, on peut parler de diffamation ou autre chose, mais vous verrez noir sur blanc ce qui a été rajouté, ce qui n'a pas été rajouté.
Ce qui est clair, en tout cas, c'est que vous parlez assez peu. Bintou parle assez peu, finalement. C'est le journaliste qui parle beaucoup et vous confirmez ce que le journaliste veut entendre.
Bah exactement, il avait déjà
son scénario dans la tête, son personnage.
Le journalisme français, c'est comme le cinéma au jour d'aujourd'hui. On a un scénario de base.
C'est un genre de sitcom.
Voilà. On a le scénario de base, on prend un repéreur pour les lieux, on fait un casting pour avoir l'acteur type et on organise le tournage et ensuite on monte et on envoie ça. Donc moi, je ne parle presque pas, c'est simplement je réponds à ses questions. Donc il me conduit, on a la description au début. Et ensuite, il me conduit où il veut.
Alors, Bintou, c'est une victime. Hein, elle est victime, c'est une pauvre femme.
La pauvre, oui, bah, il faudrait la soutenir. Donc, si vous pouvez lui envoyer des mots pour la soutenir, dénoncer son mari, ce serait bien.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le salaud, c'est le mari. Quoi.
Voilà. En gros, le salaud, c'est le mari. Bintou est la victime.
C'est un vieux qui a 60 ans.
Comment ?
C'est un vieux qui a 60 ans, son mari.
Voilà, c'est un vieux qui n'est jamais là. C'est le cliché. C'est le cliché qu'on a de la polygamie. Un homme qui disperse entre plusieurs femmes et le pays. Donc on dit que le monsieur vole l'argent de l'allocation pour aller l'investir au pays. On dit que le monsieur délaisse les enfants. On dit qu'à cause du délaissement, ça crée un échec scolaire et un échec culturel des enfants. On dit que les enfants finissent dans la délinquance. C'est la question qu'on se posait tous. Est-ce que la polygamie crée la délinquance de l'enfant?
C'est ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est la polygamie qui est à la mode. Ça a été la burqa, on a eu le voile, Enfin, c'est une sitcom et on a compris la façon dont certains journalistes travaillent. Peut-être pas tous quand même. Mais, et vous le dites d'ailleurs vous-même, que c'est pas tous qui travaillent de cette façon.
Fait.
Sauf que c'est une sitcom qui stigmatise de la façon la plus raciste qui soit. Une partie de la population française. C'est pas rien, quand même. C'est pas rien. Immigration, Rome, allocation, virgule, mensonge, ce qu'on n'ose pas dire, c'est quand même costaud. Enfin, là, on est en train d'installer bel et bien ce qu'il faut appeler de la propagande.
Bah, on a essayé de stigmatiser une population, mais quand on a vu que la stigmatisation a échoué, on se fait passer pour une victime. On a été piégé, c'est un coup monté.
Alors voilà, ça c'est la réaction, bien évidemment, que le point se dit consterné, le journaliste se dit tout à fait consterné, mais la réaction, ça va être de dire, de la part du point et du journaliste, nous avons été piégés, c'est-à-dire que nous sommes victimes et nos lecteurs aussi sont victimes.
Je dirais plutôt que les véritables personnes qui sont victimes, c'est la population. Pour cette étiquette qu'on voulait leur coller sur le dos, le lecteur, pour ce mensonge qu'on voulait leur apporter sur un plateau, et le pire, c'est que c'est le journal qui fait l'erreur, qui est la victime dans l'histoire. Non, s'il aurait vérifié, s'il avait fait le journalisme, c'est quoi ? C'est avoir un sujet, aller sur le terrain et montrer à la population ce qui se passe sur le terrain et non être assis à la maison ou dans un bureau, répondre au téléphone et pondre un article tout tissé, tout brodé.
Les journaux disent vrai, les philosophes aussi. Je suis l'ennemi juré du rayonnement de la francophilie. J'héberge trois tribus Maasai sous mon lit, dont les mioches ont appris à fondre sur Paris. À l'arrivée des beaux jours pour fêter le printemps, aux premières manifs d'étudiants j'accours. Méfiez-vous de mes enfants, on les a exclus du ciel. Et comme les anges, les démons ont des ailes. Je suis une bande ethnique à moi tout seul, c'est écrit sur ma gueule. Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Toujours à 40 000, quand les rats sortent des bidonvilles avec des bidons d'huile.
ces trois équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus, qui sont les vraies stars du JT, les gentils condés ou les grands méchants noirs. Il va falloir se décider, car mon casier judiciaire a horreur du vide. Un peu comme moi d'ailleurs, qu'y a-t-il de bizarroïde?
Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver.
À moi tout seul, je suis une bande ethnique. Égorgeur de bêtes à poils laineux, la lame passée au feu. Sale kick a juré à tout bout de champ. Pour des broutilles ou sur l'honneur de ses parents. Nom, prénom, claque au fond de la gorge. De sorte que la bague t'aime à bras le corps. Alors, qu'elle orne sur le cop, les tracts qui traînent. Manif contre le maire, t'as malin, vite la haine. Je ramène toute ma culture de gâteau repeux. À la hit, vas-y partage, fais pas le var creux. Et le cheveu, harash qui affole la signalétique, affiche ma bande ethnique.
Toujours ce regard aussi noir que méfiant, hein. Non pas du genre fuyant, mais plutôt horrifiant. J'ai ses doigts, ses mains qui marchandent, qui traînent, qui baffent, mais jamais ne demandent. Sans compter cette grande gueule, je suis bon qu'à jacter, brailler, brailler, insulter, vecter. Ses pieds qui ont couvert de la distance, obligé de courir encore plus vite que les flics. Je pense avoir ce cocktail du parfait Morico pour m'écarter des clichés tropicaux. Banania, oui, buana, c'est comme ils veulent, hein. Je suis une bande ethnique à moi tout seul.
Un bidonnage, une imposture, on est autour de ce papier paru dans le Point de cette semaine, un mari, trois épouses, où le fixeur Abdel nous raconte le piège qu'il a monté pour les ou contre les journalistes qui se sont contentés d'appels téléphoniques. Je voudrais tout de suite dire que le journaliste Jean-Michel Descugis s'est tout à fait accablé. Je l'ai eu longuement au téléphone. Il est tout à fait ennuyé, embêté par toute cette histoire. Il serait tout à fait incomplet de lui faire porter le chapeau à lui tout seul. D'ailleurs, beaucoup de journalistes sont venus à son secours en disant que ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et bien sûr, comme d'habitude, le bouclier déontologique et corporatiste a joué dans le sens que vous imaginez. Ça fait très longtemps que les méthodes et les journalistiques sont dénoncées, souvent par les journalistes eux-mêmes. Vous vous souvenez peut-être de ce livre d'Edward Baer, journaliste de Newsweek, qui avait intitulé son bouquin, un livre à la fin des années 70, « Y a-t-il quelqu'un ici qui a été violé et qui parle anglais ?» C'était au cours de la guerre civile au Congo, donc on voit que depuis longtemps c'est dénoncé, mais très souvent par les journalistes eux-mêmes qui disent « Ah oui, c'est vrai, voilà, on a un peu enfin, une espèce d'autocritique comme ça », mais il est rare que les sujets eux-mêmes, tout d'un coup, se retournent et mordent la main qui les nourrit, c'est le cas de le dire, avec Abdel qui a monté cette réjouissante imposture. Alors le journaliste est consterné, le Point écrit « La première victime de ce coup monté, ce sont les lecteurs », on est en train de le dire, auprès desquels nous nous excusons. Et le Point dit aussi « Le Point se fait un devoir d'enquêter sur les raisons de cette manipulation et de mettre à jour les intérêts qu'elle sert. » Abdel, vous êtes manipulé, vous êtes un agent d'un groupe, d'un complot quelconque, avouez-le.
Je vais tout avouer devant vous. Je suis un trafiquant de drogue.
Vous êtes lié à Al-Qaïda.
Voilà, je suis lié à Al-Qaïda.
Vous
donc,
êtes islamiste. Vous êtes
islamiste. Polygame aussi.
J'étais polygame.
Ouais. Pédophile. Et
pédophile à mes jours perdus. Non, grosso modo, je suis tout ce qu'ils veulent. Je suis tout ce qu'ils veulent. Mais ils veulent s'en sortir. Essayez de relever la tête. Moi, je n'ai rien contre le Point.
Mais le Point a contre vous. Si vous n'avez rien contre le Point a quelque chose contre vous, puisqu'il menace de porter plainte contre vous.
Ah, pour la menace de porter plainte pour diffamation?
Oui.
Bah, pourquoi j'ai diffamé quelque chose? Je sais pas, j'ai pas fait école de droit, mais j'ai regardé vite fait sur Internet et ce que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être que le lecteur devrait porter plainte contre le Point pour fausse insinuation, pour faux témoignage, pour... usage de faux et compagnie.
À la finale, vous avez été payé pour ce boulot?
Oui, monsieur. Là, ça ne bon, sert à rien de la dire, mais j'ai été payé en liquide.
J'ai lu quelque part, c'était 200 euros.
Voilà, en liquide, et j'ai été payé le lendemain matin.
De quelle façon ?
En liquide, je me suis présenté chez l'intermédiaire. L'intermédiaire est descendu, m'a félicité en disant que le journaliste était très content de l'article, qu'il avait beaucoup aimé, qu'il était consterné, qu'il voulait me rencontrer pour parler un peu plus de mes actions dans le quartier et compagnie, et que c'était beau. Voilà.
Alors, ça fait un buzz quand même assez considérable.
Bah, ça fait un buzz considérable. Et la façon dont Le Point a aussi essayé de se défendre, c'est qu'il disait que j'étais un petit gamin qui essayait de faire parler de lui.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc, on essaye de se défendre comme on peut. Comme on dit, c'est pas toujours la meilleure défense qui gagne. Mais c'est drôle comment ils essayent de noyer le poisson dans l'eau.
Vous habitez Clichy-sous-Bois, il y a des réactions dans le quartier, les gens du coin, copains
Si vraiment les gens veulent avoir les réactions sur cette affaire-là, qu'ils viennent à Clichy-sous-Bois, les journalistes, ils sont très attendus et les gens répondront sur cette histoire-là. Donc ils viennent directement questionner les gens. Qui viennent de demander l'avis aux jeunes de banlieue, même pas qu'aux jeunes de banlieue, les Roumains, toute cette population qui a une étiquette qui a été créée médiatiquement sur son dos. Parce que moi, je suis un jeune Parisien, on me parle de banlieue, ah, c'est les Arabes et les Noirs. J'ai déjà une opinion dans ma tête. On m'a tellement formaté, on m'a conditionné à avoir une étiquette dans la tête. Je me pose même plus la question, je suis convaincu avant même de connaître. Je rencontre quelqu'un, je sais déjà ce qu'il est avant même de savoir qui il est.
Mais ce qui est quand même marrant là-dedans, c'est l'imitation que vous faites de cette femme Bintou et de sa situation. Ça suppose quand même que vous êtes un bon observateur.
Non, moi, c'est tissé là, c'est senti d'être tissé là. Moi, c'est pas imité, moi, c'est vraiment Bintou. C'est les maris, c'est tapé moi. Ah non, j'ai pas dit ça. Pas un observateur, okay, c'est Hichem, vraiment
ça,
que...
Ça va faire un rap, ça ?
Peut-être. Bah, déjà, je pense que ça constitue l'essentiel de moi, ce que j'écris. Déjà, dans l'ancien album, j'avais écrit un titre qui s'appelait Média, Média. Et puis, suite à la lettre au président que j'avais écrit à Chirac, j'en parlais déjà, les politiques de stigmatisation, en mettant en garde là-dessus. Et je pense que malheureusement, ça va continuer. Je pense que ça va continuer. Donc oui, moi, j'estime que la sensibilité d'un artiste, en tout cas, tel que je le conçois, un peu comme Camus finalement, c'est de rester vigilant et en révolte
permanente,
si possible. Donc c'est pas toujours facile, mais bon, ouais, une chanson. Et puis ce qui est vraiment intéressant, enfin je le redis parce que pour moi c'est vraiment une force et une qualité, c'est fait avec tellement d'humour, tellement de légèreté. Abdel, on se connaît depuis très longtemps, on a passé militant ensemble. Bon, quand on dit militant, ça fait tout de suite des grands mots, mais finalement... on est proche des gens qu'on aime, c'est tout.
Mais est-ce que vous arrivez justement militant, associatif, tout ça, dans les quartiers où vous vivez, à faire comprendre tout ça, tout ce que dit Abdel ? Est-ce que vous arrivez à le faire passer, à faire comprendre aux gens qui sont stigmatisés en permanence depuis
les gens,
des années,
qu'on déforme déjà, en fait,
leur ville ?
Les gens le pensent
déjà. Non, mais ils le savent, bien sûr.
Ils le savent déjà d'eux-mêmes. Nous, finalement, c'est vrai, hein, finalement, on répète.
Ce que disent les gens, voilà, comme il a fait.
C'est vrai.
Un perroquet, t'es un perroquet.
Voilà. Non, mais c'est vrai. Et je pense qu'après, un artiste est aussi entre deux, c'est-à-dire qu'il est une sorte de pont. La réalité, et par exemple, le rap. Bon, parlons de stigmatisation. Le rap a été très stigmatisé quand même. Ouais. C'est très difficile aujourd'hui de s'exprimer. Enfin, dès que vous dites rap, et je le vis dans l'entourage, je le vis à l'extérieur, on a l'impression qu'on est dans un art mineur, alors que c'est un art qui existe à part entière. On a l'impression que c'est forcément la voie de la violence. Enfin, dès que je dis rappeur, on pense bling bling, les meufs habillées super légèrement, qu'on respecte pas, on est des misogynes d'emblée. Enfin, vous voyez, tout cet attirail, c'est ça la stigmatisation, à tel point que l'individu n'est plus libre, ne se sent plus libre. Moi-même, en tant que rappeur, par moment, je me sens plus libre par rapport à ces caricatures parce qu'elles ne me correspondent pas et ce sont bel et bien des caricatures. Mais les gens qui écoutent cette musique et qui nous écoutent, finalement, on redit autrement et en musique de manière plus agréable la douleur de vivre ces stigmatisations, ces caricatures aujourd'hui. Abdel l'a fait. Moi, franchement, en tant qu'artiste, parce que je chante, parce que j'écris, l'a fait dans un art qui, moi, est plus difficilement accessible, l'humour. Donc oui, ça pourrait donner une chanson, peut-être même avec Abdel, tiens.
En tous les cas, je voulais remercier Bintou d'avoir si bien imité Abdel ce matin.
Bah merci, c'était juste pour montrer la vérité, quoi. C'est pour ça, là.
Salut, merci. Merci.
Hey, ouais, dans ma mairie, il y a des fatmas, il y a des youyou, des foulards, des babouches, des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadous. Au secours, on est plus
plus chez nous. Fichtre, ma fille va épouser un Morico. Notre camp crie youyou au lieu de cocorico. Elle s'est mise en tête de se convertir, rejoindre notre camp. J'aurais encore préféré que ce soit un mariage blanc. Mais je les vois, on dirait des gitans. L'argent des Alas transformé en or sur les cartons. Manquerait plus que le voyage de noces en Afghanistan.
Jamais sans ma fille.
Je souffre déjà de ce qui m'attend. Et quand ils dansent, on dirait une émeute.
Mais qu'est-ce que ta mère fait toi, hein?
Qui fait baver la meute? Les pères ont les claquettes, les filles ont les baskets. Même avec le costard, la racaille met des casquettes. Ma fille s'appelle Marianne et je vis le drame.
Allah habibi yallah.
Ça plaît même à ma femme. Je suis déçu, moi qui pensais qu'ils étaient polygames. J'aurais peut-être pu présenter mes maîtresses à ma femme.
Hey, dans ma mairie y'a des fatmas et des youyou. Des foulards, des babouches et des boubous. Des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous.
Des derbouka, des tam-tam et des marabouts. Hey, des grosses moustaches, des zoulous, des danses vaudous. Ça baragouine des charabiens.
Ouais, il est là.
Faut les voir quand ils débarquent avec toute leur soumala. Avec toute leur marmaille, on se croirait à la casse-bas. Ils nous emmerdent, ils nous saoulent avec leur tradition. Leur code de la famille, leur rituel, leur religion. Je suis pas raciste, mais là y'a des limites. En France, monsieur, on a des règles de conduite. Il y a un siècle, ils étaient tous encore parqués dans des eaux. Et aujourd'hui, ils veulent nous piquer notre boulot. Ils veulent être ministre, étudier à sciences politiques. Et pourquoi pas devenir président de la République. C'est le monde à l'envers, y'a plus d'hierarchie, plus de respect. Ça veut même plus rien dire d'être un vrai français.
Dans ma mairie, y'a des fatmas et des youyou. Des foulards, des babouches et des boubous. Des voyous, des oubidas, des mamadous. Au secours, on n'est plus chez nous. Dans ma mairie, y'a des fatmas et des youyou. Des foulards, des babouches et des boubous. Des voyous, des oubidas, des mamadous. Au secours, on n'est plus chez nous.
Voilà, merci à tous, merci à Hicham Di Axiom, merci à Abdel alias Bintou, merci aussi à Jean-Michel Décugis. À voir sur le site d'Arrêt sur Image la vidéo d'Abdel au téléphone avec le journaliste du Point. C'est un véritable régal. Le bouquin d'Edouard Baird a été publié en 78 chez Lafon. Y a-t-il quelqu'un ici qui a été violé qui parle anglais? Je ne sais pas si on trouve encore ce bouquin. Merci encore à tous.